Et si? Et si vous aviez accès au savoir, à l'expérience des meilleurs managers de la tech? Ça serait bien, non? Je suis Aurélien Garrigo, partenaire chez Engineering Inside et bienvenue dans Tech Manager, le podcast qui décortique le fonctionnement des services tech des meilleures entreprises et agences francophones. Ce podcast a été créé pour les dirigeants, CTO, managers et chefs de projet évoluant avec des équipes de développeurs. L'objectif vous permet de créer, organiser et manager des équipes de développeurs, internes ou externes, toujours plus performantes et épanouies. Voyez-le comme un moyen de faire entrer dans votre entourage les meilleurs juste en pressant un bouton.
Surtout, pas prendre les choses personnellement. Parce que le plus dur, c'est de garder un peu la tête hors de l'eau. On écrive un algorithme qui va aller lire une bibliothèque de livres et je veux avoir une page web derrière. Et en gros, je leur dis, vous le faites sur ce que vous voulez, comme vous voulez, je veux juste savoir comment vous réfléchissez. Je veux pas savoir comment vous implémentez Symfony, ça m'intéresse pas.
Avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas Engineering Inside, l'initiateur de ce podcast, il s'agit d'une ESN à taille humaine permettant à des agences, start-up, e-commerce d'intégrer rapidement de très bons développeurs à des tarifs abordables, sans les risques de l'internalisation. Persuadé qu'une organisation efficace est un savant mélange entre internalisation et externalisation, si vous recherchez des développeurs maîtrisant par exemple Symfony, React, PrestaShop, WordPress ou autre, ils travaillent depuis César avec une vingtaine de technos et il y a fort à parier qu'ils aient le développeur qui correspond à leurs besoins. Pour en savoir plus, le lien est en description. Maintenant, place au podcast. Bonjour Guillaume, comment vas-tu?
Bonjour Aurélien, ça va très bien et toi?
Yes, ben écoute, ça va très bien aussi. En ces périodes de fête où c'est qu'on enregistre donc du coup tous les deux un petit peu à l'extérieur de notre environnement de travail, qu'on a essayé de s'adapter, mais écoute, je pense qu'il y a de quoi faire un très bon épisode. Tu m'as parlé un petit peu des thématiques que tu voudrais aborder et moi ça me parle beaucoup et je pense que ça va intéresser nos auditeurs. En tout cas, Guillaume, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux me parler de toi, de Kitok, de ton parcours? Dis-nous ce qui te semble intéressant à partager.
Ok, ben, du coup, je suis Guillaume Giordana, donc je suis là aujourd'hui CTO chez Kitok. Donc pour faire rapide, Kitok, c'est une entreprise qui produit des paniers à cuisiner, des paniers recettes. Je reviendrai un peu plus précisément dessus. Pour mon parcours, globalement, j'ai un peu tout fait dans la tech. J'ai à peu près une quinzaine d'années d'expérience dans la tech. J'ai commencé développeur front. J'ai ensuite enchaîné sur du bac, sur du Symfony. J'ai commencé dans une petite start-up, il y a une quinzaine de personnes, un délégataire e-commerce. Donc en gros, on proposait une solution e-commerce à des clients sans qu'ils aient à fournir de l'argent et on se rémunérait sur les ventes faites par ce site internet. Donc j'ai fait 7 ans là-bas, où j'ai eu l'occasion d'être développeur, d'être architecte. Ensuite DevOps et puis après l'aventure s'est arrêtée pour moi et j'ai changé, mais ça a été une bonne expérience. J'ai enchaîné dans une entreprise qui fait une solution omnicanal, donc de vente un petit peu sur tous les canaux, donc ça restait encore dans le e-commerce et dans le commerce aussi, dans le retail, où là j'ai été DevOps et puis Head of DevOps. Je suis pas resté très longtemps, enfin je suis resté 2 ans, ce qui pour moi n'est pas très longtemps. Et c'est après que je suis arrivé chez Kitok. Donc ça va faire un peu plus d'un an. D'abord en tant que lead DevOps, et puis j'ai eu l'opportunité de proposer ma candidature en tant que CTO à la suite du départ du CTO d'avant. Et puis voilà, ça va faire 7 mois que je suis en poste. C'est très intéressant par rapport à ce que j'ai pu connaître jusqu'à présent. C'est un peu moins technique, mais c'est un parcours et c'est un choix que j'avais envie de faire depuis très longtemps, de pouvoir un peu voir tout ce qui se fait. Voilà.
Je pense que ça va être intéressant de parler un petit peu de ce changement, un petit peu, on va dire, peut-être d'approche, de mindset, etc., de dire, avant j'étais développeur et ça fait 7 mois du coup que tu es CTO. Savoir comment tu as appréhendé la chose, comment tu as appréhendé le métier. Est-ce que ce que tu pensais à la base du métier de CTO aujourd'hui, je vais me reformuler, je couperai au montage. Est-ce que ce que tu pensais du métier de CTO quand tu étais développeur, et la réalité de ce que tu vis aujourd'hui, ou est-ce que c'était totalement différent?
On a toujours un peu une vision biaisée parce qu'on n'est pas dans le métier. Donc oui, c'était un peu différent. Pour moi, un CTO, quand j'étais développeur, c'était déjà c'était le big boss de la tech. Donc c'est celui qui est au codir ou au comex et qui va imposer un petit peu les choix techniques et qui va aussi réfléchir à la stratégie de l'entreprise avec les autres personnes de la direction. Ça, clairement, aujourd'hui, je le retrouve. Mais j'avais peut-être pas la notion de l'aspect politique dans une entreprise, l'aspect managérial aussi, parce que en gros globalement, là j'ai plus beaucoup de temps à mettre dans la technique. Alors j'ai encore un petit peu la main dedans parce que j'aime bien et parce que j'ai mon passé de développeur, mais aujourd'hui les trois quarts de ce que je fais c'est de la planification, de la gestion humaine, de la gestion RH. Et c'est vrai que je pensais pas qu'il y avait autant, que cet aspect-là était autant important, aussi important, comparé à l'aspect technique derrière. Je vais pas dire qu'un CTO, n'importe qui pourrait l'être sans connaître la technique, parce que je pense que c'est important aussi d'avoir un background et de savoir discuter technique. D'ailleurs, c'est indispensable, je pense. Mais clairement, c'est pas... On va dire que ça m'a pas fait rêver au départ. Maintenant, je commence à être plus dedans, à pouvoir me mettre dedans, parce que aussi j'ai dû passer par des phases qui sont inhérentes à une prise de poste en tant que CTO. C'est plein de gestion RH et de gestion humaine qui font que maintenant je peux enfin me concentrer sur l'aspect technique, ce que je pouvais pas faire il y a encore quelques mois. Voilà.
Ouais. Et bien, du coup, parlons un petit peu humain. Aujourd'hui, l'équipe vraiment tech de Kitok, elle est composée de combien de personnes et c'est quoi aujourd'hui les postes clés?
Alors aujourd'hui, à la technique, on a une quinzaine de personnes. On a un pôle back-end qui va faire essentiellement du PHP, Symfony. Il y a 6 développeurs. Niveau d'expérience assez hétérogène. Il y a des très juniors, il y a des un peu plus seniors. Ensuite, on a un pôle front-end. Donc là, qui va faire plutôt du React. Donc ils sont sur du React pour la partie front de notre site internet et aussi pour la partie appli mobile. On a 2 applis mobiles qui dialoguent avec le back en API. Et à côté de ça, on a une équipe de QA, donc qui va aller vérifier que tout se passe bien au niveau des développements, que tout suit la bonne route et que ça marche bien. Ils sont 2 aujourd'hui. Et puis à côté de ça, on a une petite équipe DevOps. Donc moi, je faisais partie de cette équipe il y a encore quelques mois. Donc là, on a un DevOps qui va s'occuper de l'industrialisation, des environnements de prod, de staging, de QA et des environnements locaux pour les développeurs, faire en sorte que tout soit bien, harmonisé, qu'on n'ait pas de soucis. Et puis, à côté de ça encore, qui fait partie aussi de notre poste, on a un administrateur système, donc qui lui va faire un peu plus l'informatique interne, dialoguer avec nos prestataires, mettre en place les VPN, les choses dans ce genre-là. Voilà à peu près ce qu'on a. Et puis, en dehors de ça, aujourd'hui, on a aussi une équipe de PO, mais elle n'est pas rattachée à la tech. Alors, ça dépend des entreprises. Il y en a qui les rattachent souvent à la tech, il y en a qui ne les rattachent pas. Nous, on est parti du principe que le PO faisait partie du métier et qu'il pouvait avoir la même importance qu'une autre personne d'un autre service. Donc, ça a été mis à part pour que on essaye d'avancer plus sereinement. Voilà. Mais ça marche très bien quand même.
Ouais, c'est des choix. Et au final, même s'ils sont de notre service, ils sont amenés à travailler avec toute l'équipe tech. Et donc, j'imagine.
De toute manière, le PO sans la tech, il peut rien faire. Donc, les interlocuteurs privilégiés, c'est les développeurs. Donc, sans les développeurs, ils ne peuvent pas faire grand-chose.
Yes. Et du coup, cette organisation, quand tu as pris le poste de CTO, est-ce que c'était la même ou est-ce que tu as initié des changements?
Non, alors elle n'était pas exactement pareille. J'ai oublié de citer, on a un engineering manager, donc lui, il va s'occuper du delivery. Donc, c'est un peu notre lead transverse, équipe back, équipe front. Parce que quand je suis arrivé, il y avait vraiment deux pôles qui ne se parlaient quasiment pas, un pôle front et un pôle back, avec chacun un lead front et un lead back, et chacun faisait un petit peu les choses de son côté. Il n'y avait pas de dialogue, il y a eu pas mal de soucis, de, on va dire, roadmap qui était un peu différente entre les deux pôles, alors que bah, normalement, ils sont supposés travailler dans la même direction et un petit peu sur les mêmes sujets. Et du coup, bah, j'ai fait le choix, on a fait le choix aussi en analysant un petit peu tous ensemble qu'il fallait qu'on arrête rapidement ce fonctionnement et qu'on revienne un petit peu à essayer de tous travailler ensemble. Sans évidemment obliger les backs à faire du front et les fronts à faire du back, mais qu'ils arrivent à travailler tous ensemble. Et on s'est dit qu'en mettant juste un lead ou un responsable pour tout le monde, ça pouvait permettre de faire un petit peu cette transition entre ces deux pôles, et aussi avec la QA, parce que la QA jusqu'à présent était un petit peu en bout de course et donc héritait de tous les sujets à la fin, ce qui l'a un petit peu moins. On essaye de les intégrer au début, pendant et après les développements, pour essayer d'aller un peu plus vite et d'éviter le nombre de retours aussi qu'on peut avoir s'il y a des problèmes.
Mmh. Yes, ouais, intéressant. Du coup, ça vient un petit peu au sujet dont on a discuté en amont un petit peu ensemble. C'est ton retour d'expérience sur l'arrivée dans le service tech et justement toute cette conduite de changement où c'est que tu es arrivé, tu as initié des changements, ils ont été plus ou moins bien pris. Et tu as vécu ça aussi en tant que développeur dans tes précédentes expériences. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de ces deux expériences en tant que développeur et en tant que CTO, toute cette conduite de changement?
La conduite du changement, ça, c'est quelque chose de très compliqué à mener quand on n'est pas habitué, quand on l'a jamais vécu. Peu importe le sujet, peu importe l'endroit où on va être, de base, de toute manière, les gens, en général, sont réfractaires au changement. On le voit avec le Covid, faites-vous vacciner, il y a le pass sanitaire, on va me bloquer, on me bloque mes droits, je suis plus libre. Dans l'entreprise, c'est exactement la même chose. Si quelqu'un arrive, on va changer, on va faire ça, et c'est mal pris. Enfin, les trois quarts du temps, c'est mal pris. Pour chacun ses bonnes raisons, il n'y a pas de mauvaise raison de mal prendre le changement. C'est qu'en gros, on va sortir les gens de leur zone de confort, et du coup, bah, derrière, ça va être, c'est compliqué. Donc, je l'ai vécu comment ? Je l'ai vécu, je l'ai bien vécu quand même, parce que j'ai eu la chance d'avoir un coach personnel pour m'aider justement à trouver la bonne formulation des choses, essayer de comprendre les gens, essayer de vraiment trouver des solutions, et de aussi surtout pas prendre les choses personnellement, parce que le plus dur, c'est de garder un peu la tête hors de l'eau quand on arrive en tant que CTO, qu'on apporte une nouvelle direction. Toutes les personnes déjà en place, elles vont venir nous voir, et puis elles vont nous dire qu'on n'a pas fait les bons choix, qu'on ne leur a pas posé les bonnes questions, qu'on n'est pas allé voir les bonnes personnes, sans forcément nous poser la question de savoir si on l'a vraiment fait, ou si on est allé voir, ou si on a pris un petit peu si on a fait le tour de la boîte pour poser une nouvelle direction et pour dire on va aller dans ce sens. Ça change un peu du sens d'avant, mais voilà. On y va, et c'est vrai que ça c'est une partie compliquée, parce qu'on se prend pas mal de reproches, et globalement, moi ce que j'ai appris, c'est que faut pas le prendre personnellement, parce que si ça avait pas été moi en tant que CTO, ça aurait été quelqu'un d'autre, et forcément, je fais confiance au COMEX pour avoir choisi un CTO, mais ils auraient pris un CTO qui avait la vision que eux avaient aussi envie de donner à la boîte. Donc en fait, globalement, ce que j'ai apporté, ce que j'ai voulu donner à l'entreprise, si ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, tous ces reproches et toutes ces, Toutes ces plaintes, elles auraient été vécues par quelqu'un d'autre et ça n'aurait pas été pris personnellement. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être une approche qui est... il faut l'avoir vécu ou il faut le vivre une fois pour se rendre compte que, bah, en fait, c'est pas personnel, donc il faut vraiment pas que ça devienne compliqué psychologiquement. Et ça peut l'être, surtout dans des phases où on demande de reconstruire un peu tout. Mais c'est une aventure, c'est assez intéressant. Moi, je pense que le changement, c'est bien. De toute façon, ça fait partie de ma culture de vouloir changer. Enfin, en étant développeur, peut-être passer DevOps. DevOps, c'est la culture globale du toujours changer, toujours se remettre en question, essayer d'avancer, d'industrialiser. Donc, c'est un peu ce que moi, j'ai envie de faire aussi pour la boîte. Et même si dans 2 ans, on est arrivé dans la direction que je voulais, il y en aura sûrement une autre. Et il faudra l'apprendre et il ne faudra pas l'oublier. Il ne faudra pas oublier d'où on vient aussi. Mais voilà. Et après, si je dois passer sur la partie développeur, donc que j'ai vécu aussi, et par contre, je l'ai vécu dans un... Donc c'était au moment de première entreprise, on avait quelque chose en place, donc un outil e-commerce sous Magento, pour ne pas le citer. On avait fait une plateforme où on hébergeait à peu près 17 ou 18 clients différents sur la même plateforme, exactement la même, c'était fonctionnel, bon, c'était Magento, donc un peu compliqué à prendre en main, ça demandait une équipe de développeurs, on était 7 ou 8, on n'était pas non plus énorme pour gérer 18 clients, avec des développements custom et toutes ces choses-là, et en fait, ça a marché très bien pendant 5 ans, et une nouvelle direction est arrivée, et en fait, elle a posé un nouveau projet. Où on remettait en question tout ce qu'on avait fait, y compris la partie Magento. Et il fallait qu'en 6 mois, on redéveloppe un e-commerce, un outil d'emailing, un outil d'interfaçage, un ETL, toutes ces choses-là. Et en gros, moi, je l'ai mal vécu parce que je ne comprenais pas la pertinence. On voulait essayer d'optimiser. Et là, on était plus en train de vouloir tout réinventer. Donc, il y a parfois des moments où Il y a des moments où c'est intéressant aussi d'avoir l'avis des développeurs et de l'entendre, ce que j'ai essayé de faire avec Kitok, tout en gardant ma ligne directrice. Et ce qui n'avait pas été le cas quand j'étais développeur, on ne m'avait pas vraiment entendu. Bon, il se trouve qu'au final, le projet n'a jamais abouti en 1 an et demi, ça n'a jamais rien fait. Et c'est, moi, j'étais à fond dedans et je travaillais et je restais professionnel, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué quand on n'est pas entendu et quand on n'est pas écouté. Et du coup, c'est ce qui peut provoquer certaines démissions, certains départs quand il y a un changement de direction. Je l'ai vécu chez Kitok, je l'ai vécu aussi dans mon ancienne entreprise quand j'étais développeur. Alors moi, je ne suis pas parti à cause de ça, mais certains sont partis pour ces raisons-là. Et chez Kitok, on a eu 3 ou 4 démissions parce que justement, ça ne correspondait pas ou plus à la vision qu'ils avaient du développement et de l'entreprise et de l'outil à développer.
C'est hyper intéressant. Je pense que qu'on soit d'un service tech ou d'un autre service, qu'on soit entrepreneur ou ce que tu veux, au final, quand tu veux mener un changement, tu te heurtes forcément à tout ça et tu peux mal le vivre. Et tu fais bien de préciser qu'il ne faut pas le prendre personnellement. Et ce n'est pas évident parce qu'on a beau le savoir, et bien, on le prend quand même personnellement. Et moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois. Et donc, voilà, tu fais bien de le préciser par rapport à ça. Et donc, pour toi, le premier levier pour mener une conduite du changement le mieux possible, c'est déjà prendre le temps de discuter, d'être à l'écoute des gens. Et ensuite, même s'ils ne sont pas en accord avec cette vision, c'est OK, au moins tu as pris le temps de les écouter. Tu as pris conscience de ce qu'ils étaient et de ce qu'ils voulaient.
Oui, c'est ça. Il faut aller vers les gens, il faut leur demander quels sont... Déjà, il faut arriver à cibler leurs peurs, leurs craintes, parce que s'il y a un frein, s'il y a une réticence, c'est qu'il y a forcément une peur. Et la peur principale que nous, on pense être, c'est pas forcément celle que la personne en face a. Et arriver à trouver cette peur, ces craintes, la vraie crainte, la vraie raison, c'est le plus difficile. Mais une fois qu'elle est trouvée, en fait, c'est à partir de là qu'on peut essayer de construire. Après, parfois, ça marche. Parfois, on trouve la peur et ça marche. Parfois, on ne la trouve pas. Et en général, c'est là où la personne en face va partir. Et ça, il faut l'accepter. Moi, je l'ai accepté. Ça fait partie de la vie d'entreprise, de perdre des gens et d'en avoir d'autres. Après, c'est vrai que c'est plus facile quand on arrive dans une entreprise où il y a un pôle à construire intégralement, parce qu'on va forcément recruter des personnes qui vont avoir déjà la big picture, ils vont savoir ce qu'on veut faire et ils vont venir dans le projet en cours que moi, Guillaume, j'aurais essayé de mettre en place. Mais moi, c'est ce que j'avais dit aux développeurs quand je suis arrivé, je leur ai dit, mais je compte pas virer des gens pour reconstruire. C'est pas le but, c'est d'essayer aussi de garder au plus possible des gens, parce que jusqu'à présent, ils avaient développé, ils avaient fait des choses, ils ont une expérience d'entreprise qui est un atout. C'est clairement un atout, et c'est pour ça que c'est toujours dommage de perdre des gens qui sont là depuis 2 ans, 1 ou 2 ans, parce que recruter d'autres gens, il va falloir 2-3 mois avant de trouver le bon profil, et puis le temps qu'il soit autonome et qu'il soit dispo à faire vraiment des développements, il sera passé peut-être 6 mois, et du coup c'est 6 mois où on n'aura peut-être pas avancé aussi vite dans le projet qu'on aurait voulu. Mais bon, ça fait partie aussi de la vie d'entreprise, il faut le planifier, ça fait partie du travail de CTO d'anticiper les risques sur justement les départs, les arrivées et les choses qu'on n'avait pas prévues. La crainte principale que j'ai vue au sein des équipes, des anciennes équipes, enfin, en tout cas quand je vais dire anciens, c'est des développeurs qui étaient déjà là depuis plusieurs années, c'était que j'ai fait le choix d'un outil, j'ai fait le choix d'une solution technique avant de connaître le besoin de l'entreprise. Je comprends tout à fait cette crainte-là. Après, je pense pas, très sincèrement, en avoir fait un choix sans avoir pris le besoin. Mais je l'ai peut-être pas bien communiqué, je l'ai peut-être pas bien montré, que j'avais été voir les gens, que j'avais été faire toutes ces choses-là. Du coup, ça n'a pas été forcément pris. Ça a été peut-être pas forcément compris de la bonne manière. Si c'est de ma faute, c'est de ma faute. Et puis, je fais en sorte que ça soit mieux pour les prochaines étapes. Après, il y a la crainte de, je pense, travailler sur un outil qui n'est pas l'outil sur lequel il travaille. Alors, sans changer de langage, mais si je dis, on passe d'un Symfony from scratch à un Silius qui est une surcouche de Symfony, hein, qui fait exactement les mêmes concept et la même manière d'utiliser Symfony, ça, il y a des réticences aussi. J'ai pas réussi encore à trouver pourquoi. Peut-être parce que quand on pense CMS, on pense frein, on pense ça va juste être galère, parce que quand on voudra faire quelque chose, on sera pas libre de ce qu'on veut faire parce qu'on a des contraintes. Le CMS nous donne des contraintes. Certes. On a des contraintes aussi dans la vie, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Moi, j'ai considéré qu'il y avait plus d'avantages que de contraintes en ayant eu des avis, en ayant pris des avis d'un peu partout autour de moi, et aussi de par mes 12-15 ans d'expérience dans le e-commerce et à l'utilisation de CMS. J'ai fait du Magento, j'ai utilisé pas le meilleur CMS possible, mais on a quand même toujours réussi à faire des choses, et pour moi, c'était pas une contrainte, c'était juste gagner du temps. Et j'ai l'impression aussi que c'est culturel, ce genre de problème. C'est que il y a une dizaine d'années, c'était pas un gros mot d'utiliser un CMS quand on disait WordPress, quand on disait Magento, quand on disait même PrestaShop, que j'aime pas particulièrement, mais des Drupal, toutes ces choses-là. C'était pas un gros mot, c'était juste un avantage. Et aujourd'hui, même, on parle de en front, il y a énormément de frameworks, il y a plein de CMS, et c'est pas un gros mot de dire je vais faire des choses, mais en back, c'est devenu un peu un gros mot des nouveaux développeurs. Quand je dis les nouveaux développeurs, c'est ceux qui ont 4-5 ans d'expérience et qui ont appris, en fait, on leur a appris que c'était les meilleurs développeurs, qu'ils pouvaient faire tout mieux que les autres, et ça, j'exagère peut-être un petit peu, mais moi, j'ai vraiment ressenti ça d'une génération qui pense savoir tout faire et mieux que les autres. Et en fait, je me trompe peut-être, mais moi, je préfère capitaliser sur une équipe, même pour faire de l'open source, en allant voir quelque chose qui est bien maintenu, qui est communautaire, qui a des dizaines et des centaines de développeurs derrière qui font ça gratuitement. Alors, c'est un peu ma vision aussi d'entrepreneur. J'ai une équipe gratuite qui fait évoluer ma solution, qui corrige des bugs et sur laquelle je ne vais pas avoir besoin de mettre du coût RH, mais pourquoi pas l'utiliser si elle correspond à mon besoin. Et aujourd'hui, bah, cet aspect-là aussi, l'aspect global d'entreprise, c'est là où je pense la vision que j'avais était un peu différente de celle qui était la personne avant moi. C'est que moi, je ne considère pas que la tech chez Kitok est indispensable. Pour moi, la tech chez Kitok, demain, on peut très bien l'externaliser. On peut très bien aller sur du Shopify. On peut faire des choses avec que du SaaS. Il n'y a pas de problème. Ça va prendre un peu de temps, mais on peut le faire. Avoir une équipe tech aujourd'hui dans une entreprise, dans une startup, ça a bien marché pour lancer la startup. Maintenant, on est arrivé à un niveau où il faut qu'on scale up, donc faut qu'on avance. C'est pas indispensable, mais par contre, c'est très avantageux de la garder, mais en faisant les bons choix. Et c'est pour moi le choix de la refonte, comme on en parlait déjà il y a quelques temps. C'est un choix qui aurait dû se faire il y a déjà 2 ans. Là, on est en train d'essayer de rattraper, de courir derrière le train qu'on a raté il y a 2 ans. Parce que maintenant, l'entreprise, elle veut avancer, elle veut aller plus loin. Et que la tech est un frein. La tech chez nous est un frein à ce développement d'entreprise. Et moi, je pense à l'entreprise avant la tech. On ne va pas réinventer la roue. On ne pourra pas faire un produit e-commerce aussi puissant qu'un produit qui est déjà sur le marché, même un CMS ou même un gros SaaS. Par contre, on peut essayer de trouver ce qui nous différencie, nous, Kitok, en termes techniques, et ce qui peut avantager le métier chez nous. Et pour ça, on a plein d'idées, mais avant de faire ça, il faut qu'on essaye de sortir un peu les sujets qu'on avait chez nous qui n'étaient pas nécessaires d'avoir chez nous.
Ce que j'ai l'impression, c'est que du coup, t'es arrivé avec une culture qui correspondait plus forcément du coup à certains développeurs. Thomas, j'ai l'impression que t'es quelqu'un d'assez pragmatique. Dire voilà, aujourd'hui, il faut que ça fonctionne, on va prendre le meilleur, etc. Et peut-être qu'aujourd'hui, t'as beaucoup de développeurs, de ce que je comprends, qui ont peut-être l'impression d'être bridés, hein, travailler avec des CMS, qui vont pas pouvoir exprimer un petit peu, entre guillemets, leur talent, etc. Et on a l'impression, ben, c'est voilà, un bon développeur, il faut qu'il travaille from scratch, sinon c'est pas un bon développeur. Et du coup, ben, toutes ces personnes-là, comment tu les identifies et est-ce que tu leur as parlé de ce que tu m'as dit? Comment t'as essayé de les faire changer d'avis sur ce que tu voulais amener?
Ben, en fait, c'est mon erreur. D'avoir essayé de les faire changer d'avis. Ouais. En fait, il ne faut pas essayer de les faire changer d'avis. Il ne faut pas essayer de les convaincre. Il faut juste leur expliquer le contexte, donc le contexte d'entreprise. Ce qui s'est passé aussi depuis... J'avais analysé tout ce qui s'était passé sur l'année et demie avant. En termes de delivery, en termes de fonctionnalités qui avaient été développées, en termes de business. Et en gros, moi, je suis arrivé sur un constat, c'est qu'avec une équipe de 7 développeurs, 8, voire 10 en comptant le front et la QA, si on voulait évoluer, on allait être obligé de faire exploser nos ressources. Donc moi, je suis arrivé là-dedans, je suis arrivé dans ce contexte-là où c'est pas possible de gérer un seul site et de faire exploser les ressources. Après, derrière, oui, ça ne sert à rien de convaincre parce qu'ils ont leur parti pris. Ils sont persuadés que ce qu'ils ont fait est très bien et fonctionne et on peut le faire évoluer. Je ne dis pas le contraire. Juste, on peut le faire. Pour moi, c'était on peut le faire évoluer, mais en faisant exploser donc, les RH et en maintenant, en ayant sous les mains quelque chose qui ne va pas être évolutif. Et du coup, moi, mon discours, ça a été juste d'expliquer. Aujourd'hui, on est à ce niveau-là. Demain, donc dans 1 an ou dans 2 ans, on veut arriver à ce niveau-là sans augmenter les équipes de 60%. Parce que clairement, la direction ne peut pas se permettre de mettre un tiers de son budget dans les ressources RH techniques. Et puis aussi d'expliquer que on ne peut pas passer 1 an à faire une migration de Symfony 3 à Symfony 4. Et passer 3 mois à faire de la correction de bugs parce que la migration, on n'avait pas prévu certains cas parce qu'on ne peut pas tout prévoir. Là, clairement, c'était voilà mon but, c'était ça. Donc c'était aussi de trouver comment on peut avancer et de poser la question comment eux feraient cette chose-là en connaissant les contraintes qui sont des contraintes surtout business et pas des contraintes techniques. Et oui, mon erreur, ça a été d'essayer de les convaincre et d'essayer de prendre trop de temps à les convaincre parce que c'est partir directement d'un point où en face de soi, on a quelqu'un qui est réticent et qui ne va pas vouloir écouter. Et quand on essaye de convaincre quelqu'un, on veut toujours utiliser des arguments qui sont des arguments forts et on n'écoute pas forcément la personne en face. Et c'est facile. Et en plus, convaincre un développeur, sachant qu'on a été un développeur, donc convaincre que utiliser un CMS, c'est bien et c'est pas juste mal, sachant qu'on a personnellement déjà utilisé un CMS et que j'ai mon expérience d'utilisation de CMS, mais en face de moi, la personne aussi, peut-être elle a une expérience d'utilisation de CMS et peut-être que c'était pas le même et peut-être que ça a été très compliqué. Donc essayer de le convaincre que c'est la bonne solution, ça marche pas comme ça. Donc moi, pour ces personnes réticentes, en fait, je suis parti du principe après que c'était à eux de faire le choix de continuer à travailler avec nous et d'essayer de se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est pertinent pour eux professionnellement? Est-ce que c'est pertinent pour l'entreprise? Et c'est sur ce point-là, je pense plus sur le côté entreprise que j'ai peut-être eu un peu de mal à essayer d'expliquer l'intégralité de ce qui se passe autour et pas de ce qui se passe exclusivement côté tech.
Ouais, mais c'est un sujet tellement difficile, enfin, vraiment. Ouais. Mais merci pour ton partage, en tout cas, c'est hyper intéressant. Et du coup, comment tu as géré un petit peu tous les départs? Il n'y en a pas eu énormément non plus, mais comment tu as géré un petit peu les départs? Et comment t'as géré un petit peu les remplacements avec les nouveaux recrutements, etc. Comment ça s'est passé?
Les départs se sont faits plus ou moins rapidement. Alors, on avait encore des développeurs qui étaient en période d'essai. Donc, quand ils ont compris que c'était pas pour eux parce que ça leur correspondait pas techniquement, ils ont décidé de partir. Ça s'est fait assez rapidement pour ces développeurs-là. Donc ça a été plutôt, enfin, on va dire facile. Il faut juste penser que quand on doit délivrer un sprint toutes les deux semaines, forcément la vélocité elle est plus la même, donc on peut plus faire autant de choses parce que le temps de recruter quelqu'un, une ou deux personnes, ça dépend. Si on a de la chance, on a des gens qui ont déjà démissionné et qui vont être dispo assez vite, mais d'autres qui ont leur préavis, donc c'est pas avant 3 mois. Donc tout s'est un peu fait en parallèle, évidemment, quand j'ai pris mon poste, j'ai anticipé le fait qu'il y ait des départs, et on m'a aidé à anticiper le fait qu'il y ait des départs, donc j'avais déjà anticipé des recrutements. Ça a été très intense les 2 premiers mois où j'avais peut-être 5 ou 6 entretiens par semaine pour des développeurs. C'est un travail en soi, hein. Je comprends que les RH aient beaucoup de travail, c'est un travail en soi. Mais c'est important de le faire parce que c'est recruter des gens qui sont à l'image de ce qu'on a envie de ce qu'on a envie de faire par la suite. Les départs, moi personnellement, je suis jamais à l'aise avec des départs parce que y a surtout des départs dans ces conditions-là, c'est qu'il y a des frustrations derrière. Il y a des personnes qui sont très qui peuvent être tristes, qui peuvent être contrariées, et donc ça peut mettre un mauvais esprit sur un pôle qui est en train d'essayer de se reconstruire. Et c'est très difficile pour le manager, moi, pour les développeurs qui sont encore là, qui ont envie d'aller plus loin, mais qui aussi voient des collègues qu'ils aimaient bien, avec qui ils travaillaient, qui sont en train de s'en aller, donc ils ne savent pas trop sur quel pied danser. Donc faut jongler, faut réussir à jongler, essayer de dire que ça ne va pas durer, que c'est un mauvais moment, mais que... On va réussir à s'en sortir. De toute manière, on s'en sort toujours. sinon, c'est problématique. Mais c'est vrai que on a eu un cas qui était un peu compliqué. Moi, j'ai préféré l'exempter de son fin de préavis parce que c'était devenu un frein à ce qu'on voulait mettre en place et c'était devenu très compliqué de travailler avec lui. Et ça mettait aussi une très mauvaise ambiance, pas que à la tech, mais aussi dans les autres équipes. Et ça, clairement, pour moi, c'est pas professionnel. On peut ne pas adhérer à une direction, à une vision d'entreprise, mais il ne faut pas oublier que l'entreprise, c'est celle qui nous a donné à manger pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Et partir comme ça sur un mauvais point, c'est jamais bien. Parce que le monde du travail, le monde du développement, il est petit. Je dis pas qu'il faut être copain avec tout le monde, mais il faut rester professionnel. Et pour le coup, bah, avec certaines personnes, ça n'a pas été le cas. Surtout qu'en plus, il y a eu le contexte de télétravail, confinement, Covid, tous ces trucs-là. Donc, moi, je ne suis pas dans le micromanagement, mais ne pas voir quelqu'un qui est supposé travailler, même qui ne soit pas connecté, qui ne réponde pas, sachant qu'il est démissionnaire, c'est compliqué à gérer. C'est pas facile. Et ouais, encore moins avec le contexte actuel. Mais bon, ça, c'est je pense aussi pour tout le monde. Ça a été une période très compliquée, je dirais, la plus compliquée que j'ai vécue, mais riche en. Très riche, j'ai appris beaucoup de choses. Et si c'était à refaire, je pense pas que je referais différemment, j'améliorerais certains trucs. Je pense pas m'en tirer trop mal. En tout cas, je suis très content des profils que j'ai eu la chance de recruter après, parce que c'est clairement des personnes qui me ressemblent un peu plus et qui ressemblent à ce qu'on veut mettre en place dans l'entreprise.
Et donc du coup, tu me dis que tu as appris beaucoup. Si tu devais nous citer on va dire, un apprentissage, l'apprentissage le plus important que tu as eu de cette période, ça serait lequel ?
Rester serein et garder, être droit dans ses bottes, être pragmatique. Tu l'as dit tout à l'heure, je suis pragmatique. Oui, je suis très pragmatique, surtout sur. C'est peut-être ma vision. J'ai une vision un peu, pas que de tech, j'ai une vision, j'aime bien m'intéresser à tout. Et du coup, alors, c'est bien de se remettre en question, mais ne pas trop se remettre en question et rester un petit peu dans la direction qu'on s'est donnée et ne pas prendre les choses pour soi tout le temps. Ça, c'est vraiment le conseil. Enfin, la chose que j'ai retenue, c'est ne pas le prendre pour soi et arriver le matin et être dans la bonne humeur. Arriver dans la bonne humeur, ça déjà, rien que ça, ça donne la copie à tout le monde. C'est que même s'il y a des difficultés, il y a de la bonne humeur. On n'est pas fait forcément tous pour s'entendre, mais on doit être content de venir au travail et on ne doit pas traîner du pied, avoir la boule au ventre. Non. Si toi, tu as décidé de t'en aller, je l'accepte, c'est fini, on n'en parle plus. Maintenant, bonne humeur. Et ça, clairement, je pense que tout le monde devrait avoir ce conseil. Il y a une phase où on n'est pas content, il y a une phase où on est déçu, il y a une phase où il y a toutes les phases acceptation, reni, rejet, toutes ces choses-là. Ouais, et après, il y a la phase je regarde ailleurs, je suis dirigé sur développeur qui a démissionné dans ma nouvelle boîte avec mes nouveaux projets. Je lâche un peu prise et c'est ça aussi le lâcher prise.
Top. Et du coup, côté recrutement, il y a une question, on va dire, c'est un sujet qui intéresse énormément de CTO. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es développeur, tu reçois des offres un petit peu toutes les semaines. Comment tu fais pour attirer les meilleurs talents ? Enfin, les meilleurs talents. Les talents qui correspondent à la culture et aux besoins un petit peu de Kitok.
J'essaye de reproduire ce qui m'a plu à l'époque quand j'étais développeur. Parce que c'est ce qui m'a permis de rester 7 ans dans la même entreprise et de donner tout ce que j'avais envie de donner pour... C'est peut-être pas la bonne méthode, c'est peut-être pas, y en a peut-être des meilleurs. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Et en gros, moi, je cherche pas les meilleurs développeurs du monde, clairement. On va dire les meilleurs développeurs techniquement. D'une, parce que Kitok, ça les fera pas rêver. Parce qu'on n'a pas le projet technique pour faire rêver les meilleurs développeurs, techniquement parlant. Et de deux, parce que. Parce que ça ne m'intéresse pas, en fait. Je préfère faire grandir les développeurs et partir sur... et avoir des personnes qui vont avoir envie d'apprendre. Parce qu'en apprenant, en fait, on se remet en question souvent. Donc, Globalement, moi, je ne parle pas trop technique quand je recrute des développeurs. Je leur présente un petit peu qui on est, ce qu'on fait, quels sont nos outils, ce qu'on va essayer de mettre en place, ce qu'on veut faire sur les 2-3 ans. Donc, Kitox, c'était globalement s'industrialiser, avoir une plateforme scalable qui va nous permettre de se développer à l'international, sans faire exploser les coûts RH et les équipes et l'infrastructure et tout ce qui va derrière. Et derrière, je suis très très, je prends beaucoup de patience à étudier le côté humain, peut-être parfois un peu trop. C'est moi, j'ai besoin de gens qui vont être ouverts d'esprit, qui vont ne pas hésiter à se remettre en question, qui vont proposer, qui vont être force de proposition, qui vont pas rester juste sur leurs acquis et aussi qui vont pas rester juste à faire le travail de développeur, qui vont se mettre à la place du métier, qui vont imaginer s'ils étaient les utilisateurs de la solution pendant qu'ils développent, s'il y a des user stories qui sont pas complètes, et ben qu'ils essayent de proposer ou qu'ils, on va dire, qu'ils fassent des développements, même si ça marche pas, mais qu'ils anticipent le fait qu'il manque quelque chose et qu'il n'y ait pas besoin d'attendre qu'il y ait eu le retour du métier, du PO et tous ces trucs-là pour avancer, pour qu'on puisse délivrer. En fait, ce que je disais souvent, c'est que moi, je recherche des couteaux suisses. Je cherche pas juste un développeur. Et c'est aussi la vision que j'avais il y a une dizaine d'années. C'est que là, aujourd'hui, on a des développeurs front, des développeurs back, des DevOps, des QA engineers. Toutes ces choses-là, à l'époque, il y a 10-15 ans, ça n'existait pas. Il y avait des développeurs. Ils mettaient les serveurs en ligne, ils faisaient la maintenance, ils faisaient un peu tout, les déploiements, tous ces trucs-là, et on touchait un peu à tout, on connaissait ce que c'est un Apache, on savait le configurer. Et là, aujourd'hui, ça s'est un peu perdu. Je dis pas qu'il y en a qui savent pas faire, mais je dis que c'est de plus en plus rare. Et en fait, moi, je recherche ces gens-là, parce que je considère que ça peut n'être que bénéfique pour une petite structure comme on est, nous, en tech. Évidemment, il faut que ça soit adapté aussi à l'entreprise. S'il y avait une équipe de 40 développeurs, je veux pas que les 40 sachent faire tous la même chose, c'est pas le but. Mais là, on a besoin de gens qui sont ouais, le MacGyver du développement, qui peuvent toucher à tout, même si c'est pas les meilleurs. Si je veux un expert, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent des experts dans une solution. Moi, j'ai recruté des développeurs, Silius par exemple, ils connaissaient pas. Mais très peu de gens connaissent Sidus aujourd'hui. Mais par contre, c'est du Symfony. Donc, je vais chercher, oui, des gens qui savent faire du PHP et du Symfony. Mais si ce n'est pas les meilleurs codeurs sous Symfony, ce n'est pas grave. Pour l'anecdote, moi, je fais passer un petit test technique. C'est juste, je veux qu'on écrive un algorithme qui va aller lire une bibliothèque de livres et je veux avoir une page web derrière. Et en gros, je leur dis, vous le faites sur ce que vous voulez, comme vous voulez, je veux juste savoir comment vous réfléchissez. Je veux pas savoir comment vous implémentez Symfony, ça m'intéresse pas. J'ai pas eu de mal à recruter des développeurs. Oui, certes, il faut faire beaucoup de tri parce qu'il y a énormément de développeurs, mais on va dire que les trois quarts des développeurs que j'ai ciblés, bah, ils ont fini chez nous. Parce qu'ils avaient très bien compris le projet. Ils s'inscrivaient dans ce projet-là, ils avaient envie de participer. En gros, c'est comme une équipe de foot. Il y a un entraîneur, il vient, il va chercher des joueurs, enfin, on va dire un sélectionneur. Notre but, c'est de gagner la Coupe du Monde. Voilà, on va y aller comme ça, j'ai besoin de toi. T'es pas le meilleur techniquement, ouais, mais j'ai pas besoin d'avoir les meilleurs techniciens du monde, feront pas forcément la meilleure équipe du monde. Et c'est moi, dans ce sens-là, que j'essaye de recruter les développeurs. Essayer de former, la meilleure équipe du monde, mais sans forcément avoir quatre ballons d'or.
Ce que tu me dis, ça fait penser un petit peu. J'avais rencontré quelqu'un dans sa stratégie de recrutement, il le voyait un petit peu comme une stratégie, on va dire, stratégie de placement financier, où c'est qu'il avait des placements sûrs. Il me parlait de placements sûrs, il disait ben, je vais prendre des recrutements sûrs, c'est que je vais pas prendre de risques, et je vais m'autoriser sur un petit pourcentage de l'équipe à prendre des risques et à le faire un petit peu au feeling et aller essayer de prendre des talents qui, a priori, n'ont pas le profil, mais voilà, qui m'inspire et que je sens qui pourrait vraiment faire de belles choses. Je sais pas toi si tu le vois un petit peu comme ça, mais je trouvais l'approche intéressante.
Ouais, bah clairement, c'est un peu ce qui se fait, hein. Enfin, je pense qu'il faut le voir comme ça, parce que en fait, on travaille globalement, il y a de l'argent derrière. Hein. Ok, il y a le côté bien-être humain, mais faut pas oublier que dans toutes les entreprises derrière, faut faire du chiffre et voilà. Enfin, c'est ça qui drive une entreprise. C'est pas on n'est pas en colonie de vacances et où on n'est pas dans un projet de fin d'année. Donc faut être intelligent dans ses choix. Et pour compléter là-dessus, justement, moi quand j'ai fait les recrutements qu'on avait à faire l'été dernier, on a rencontré certains profils qui étaient en reconversion, qui avaient, à dire, une quarantaine d'années, peut-être juste 3 ans de développement, mais un vécu derrière et de belles expériences, même en stage ou même en stage de fin d'année, qui avait des expériences qui pouvaient fitter avec ce qu'on avait envie de faire. Et donc ça m'a pas dérangé une fois que j'avais mon équipe un peu au complet de faire un peu plus d'entretien avec des personnes comme ça en reconversion qui pouvaient aussi apporter une fraîcheur, hein, une vision différente, une vision d'entreprise ou une vision d'expérience différente que juste celle purement technico-technique du développeur, parce que le développeur il a fait que coder. Là on a dans notre équipe on a pris une personne en reconversion aussi, donc qui était déjà salarié de l'entreprise. S'il écoute ce podcast, il se reconnaîtra. Il a plus de 15 ans d'expérience professionnelle. Il est très jeune, hein, enfin, il est très jeune, il est assez jeune pour le coup, mais c'est un ancien cuisinier reconverti créateur culinaire chez nous et qui a décidé de se mettre au développement. Et du coup, bah, on l'a intégré dans nos équipes. Certes, il est junior, mais il a une maturité professionnelle qui est vraiment nécessaire et indispensable au sein des équipes. Et c'est pas le meilleur technicien, mais par contre, il a des atouts qui feront que plus tard, ça deviendra un très très bon technicien. Et en attendant, il a toute cette maturité-là qui permet de faire grandir, évoluer tout et de faire évoluer tout le monde. Et voilà, enfin, c'est des paris. Et j'espère que ça sera un pari gagnant.
Super. Bah écoute, si on a l'occasion de se revoir lors d'un prochain podcast, tu pourras nous faire le retour de voir ce que ça a donné.
Ouais, volontiers.
Il y a un sujet que je voulais aborder aussi. Je voulais savoir un petit peu comment tu gérais un petit peu l'internalisation et l'externalisation d'un Kitok. Est-ce que c'était dans la culture de Kitok ou pas du tout?
Alors, bah, c'est dans la culture aujourd'hui parce qu'on a Kitok.fr, donc qui est notre site français dans lequel les équipes techniques aujourd'hui ont une part bah, indispensable et sont les créateurs de cette plateforme. Et à côté, on a un site qu'on a monté il y a 2 ans, qui est un site en Belgique qui s'appelle Simply Ubox et qui, lui, par contre, est géré par bah, c'est du full externe. Donc, aujourd'hui, mon but, c'est pas de tout externaliser, c'est pas de tout internaliser, c'est de faire un mix des deux. Et je pense que il faut garder les choses qui sont vitales et qui ont un vrai avantage à être gardées chez nous. Alors typiquement, nous, on a quelques outils qu'il faut qu'on garde en interne. Après, il y a des choses qui n'ont pas d'intérêt à être gardées et donc sont très bien chez un prestataire. Je donne un exemple, si je devais faire, enfin, l'exemple le plus parlant aujourd'hui, surtout pour la partie hébergement, si je dois faire de l'infogérance pour gérer des serveurs H24, 7 jours sur 7, je vais clairement pas prendre des gens en interne et leur demander de faire des astreintes à roulement, sachant que il y a peu de chances qu'il y ait des gros problèmes assez souvent. Je vais aller chez une ESN qui va faire ça, qui va avoir des équipes dédiées qui vont gérer 15 clients en même temps, dont moi. Ils seront là au cas où il y a un problème, ils m'appelleront, enfin. Ils auront tout le truc, tout ce qu'il faut pour que ça soit bien fait. Et voilà, enfin, il y a des avantages, des inconvénients et.
Non, mais je te rejoins. Moi, je pense que dans tous les cas, il y a toujours un équilibre à trouver entre externalisation et internalisation. Moi, de mon côté, par exemple, j'ai, en plus d'être partenaire chez Engineering Insight d'animer ce podcast, j'ai une boîte spécialisée dans la growth. Et je considère que ben, l'organisation de ma boîte, en fait, c'est une organisation. Et peu importe que les gens soient externes, qu'ils fassent partie d'une agence, qu'ils soient internes en CDI, en fait, je m'en fous. Je veux juste que les gens correspondent à la culture, qu'ils travaillent ensemble. Et peu importe, en fait, c'est juste un statut. Enfin, les gens sont libres. S'ils veulent être en freelance, ils sont en freelance. Du moment qu'ils apportent de la valeur, c'est OK. Après, voilà, il y a des ratios à respecter, parce que comme tu dis, avantages, inconvénients, il y a certaines activités clés qu'il est important de garder en interne, mais voilà, je voulais partager ça parce que ça me semble important.
Non, mais ça l'est.
Super. Alors, on aurait encore beaucoup de choses à dire. C'est hyper passionnant, mais ça fait déjà pas mal de temps qu'on enregistre. Donc, ce que je vous propose, ce que je te propose du coup, c'est d'aller sur les questions de la fin. Et s'il y a des personnes, des auditeurs qui ont des questions, si tu es d'accord, qu'ils puissent te les poser, je ne sais pas, sur LinkedIn ou autre. Donc, si tu es d'accord, on mettra ton LinkedIn pour que les gens puissent te questionner.
Il n'y a pas de problème.
Yes. Question de la fin. Donc, c'est quoi aujourd'hui la stack technique un petit peu de ton service tech? C'est quoi les outils les plus importants, les plus performants, voilà, ce que tu utilises?
Bon, on utilise Jira essentiellement, qui a fait ses preuves.
La base.
Voilà. Jira et beaucoup Slack. Slack est devenu est un outil indispensable à toutes les équipes au sein de TikTok. C'est pas forcément mon. Je suis pas hyper fan, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dessus et souvent il faut aller dans les historiques de Slack. Ouais, Slack et Jira, c'est les principaux outils de gestion de projet, on va dire.
Ok, ça marche. Et en termes de ressources aujourd'hui, est-ce que tu suis, consommes des contenus liés à la tech ou à d'autres sujets? Je sais pas, des articles de blog, des livres, des chaînes YouTube, des podcasts ou autres que tu aimerais partager?
Alors, je suis pas très YouTube, les vidéos, je sais pas, j'accroche pas. Non, ma veille, on va dire, ma veille et mon suivi essentiellement sur LinkedIn, en fait, vu que je suis abonné à pas mal de gens, pas mal de comptes, et globalement, c'est un peu mon Facebook professionnel, ce qui est un peu devenu LinkedIn, c'est un peu devenu un Facebook, j'ai l'impression.
Beaucoup de sujet.
Ouais. C'est un autre sujet. Beaucoup de Twitter aussi, où pareil, je n'ai pas des comptes spécifiques, mais on va dire mes deux médiums principaux, c'est LinkedIn et Twitter, où j'ai quasiment tous mes trucs pro. Et puis derrière, ça se fait en fonction des. À chaque fois que j'ai des problématiques, je trouve des nouveaux sujets et je vais parcourir le web. J'aime bien aller chercher plutôt qu'attendre qu'on me donne des choses.
Yes, carrément. Écoute, encore merci pour ce podcast. Encore une fois, très intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup. J'espère que vous aussi, vous avez appris beaucoup. Et écoute, je te souhaite une très bonne journée. Et je te dis à bientôt, Guillaume.
Je te remercie beaucoup et à bientôt.